Showtime arrive sur Radio Larzac.
Ok, on y va. Showtime, générique, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission du partage de la passion du cinéma, de la pop culture et des cultures de l'imaginaire sur Radio Larzac. Dans ce cinquième épisode de la saison 8 de l'émission, je vous propose un menu divers et varié. Car oui, qui dit mois de février, dit Saint-Valentin et à défaut de pouvoir aller au restaurant, je vous propose tout un menu pour cette émission. En apéritif, vous prendrez bien un petit peu d'actualité du mois. Puis, je vous propose en entrée quelques suggestions. Suivra ensuite le plat principal, un plat principal qui n'est autre qu'un avis sur Shin Godzilla. Puis en dessert, vous prendrez bien un deuxième avis, un avis sur la série d'animation Doléo Dolo. Mais j'en dis pas plus, Showtime, saison 8, épisode 5, c'est parti! Allez, on va passer sans transition à l'actu du mois, car il y en a encore beaucoup à dire, et on va encore pleurer sur le triste sort des salles de ciné. L'actu du mois. Alors, ce mois-ci, dans l'actu du mois, je pense que ça va pas spécialement s'étaler, on verra bien selon le flot de pensée qui me vient à l'esprit. Mais déjà, oui, les salles de cinéma ne sont toujours pas rouvertes et on n'est pas près de savoir, de voir justement quand elles vont rouvrir. Hein. On parle éventuellement d'une réouverture des musées d'ici une quinzaine de jours. Mais pour ce qui est des salles de ciné, le doute plane encore, c'est vous dire, mourir peut attendre le dernier opus en date de la saga James Bond avec Daniel Craig a encore été repoussé. Bonjour la date de sortie en octobre 2021, alors qu'il devait justement sortir à peu près dans les alentours l'année prochaine. Hein. Cet épisode se fait beaucoup attendre, hein. Comme quoi mourir peut vraiment t'attendre hein, pour notre ami James Bond. Sera-ce donc la fin d'une histoire? La fin peut-être des salles de cinéma, car bon, lorsque ça va rouvrir, qu'est-ce qu'il y aura à l'affiche aux salles de cinéma? Du cinéma français? Encore et toujours? Une énième rediffusion de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, franchement, hein, parce que le cinéma français, hein, je vous renvoie au sketch des guignols qu'on peut trouver sur YouTube, hein, sur le cinéma français, ben, pour moi, c'est très parlant, car franchement, le cinéma français, hein, à part quelques rares pépites, hein, ça tourne un petit peu en boucle et c'est un petit peu toujours la même rengaine. Bon, après, on peut se consoler avec les diverses plateformes de streaming, ce genre de choses, car oui, il y a pléthore de choses qui arrivent sur ces plateformes. Hein. On peut penser justement aux bandes annonces du Super Bowl, Super Bowl qui a eu lieu entre le 7 et 8 février, si je dis pas de bêtises, ou c'était plus le 6 et 7 février. Je sais pas trop, je suis pas expert en sport. Hein. Mais oui, qui dit Super Bowl dit justement les pubs hein, qui sont diffusées et notamment certaines bandes annonces ciné. Bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Vous voyez une énième bande annonce de Marvel avec The Falcon and the Winter Soldier. Bon, on va pas se cacher, même si c'est une série, ça a l'air d'aller un petit peu à contre-courant des productions Marvel habituelles. À voir. Je me suis toujours pas mis à WandaVision. Hein. C'est bien pour ça que je vous en parle pas encore ce mois-ci. Après, on a eu droit à quoi? Bon, une nouvelle bande-annonce hein, pour Fast and Furious 9. J'ai jamais vu des séquences aussi what the fuck en voiture. Je me demande bien ce que ce film nous réserve. Et il y a eu aussi la première bande-annonce, teaser, un premier aperçu du prochain film de M. Night Shyamalan, de monsieur à qui l'on doit le sixième sens, ou la trilogie super-héroïque incassable Split Glass. Ce film s'appelle Old. J'ai trouvé la bande-annonce très intéressante, mais bon, il y a assez peu de consistance. On va dire que ça dure assez 45 minutes, c'est un peu court tout ça. Mais c'est des personnes, une famille qui se retrouve sur une plage et qui se mettent à vieillir de manière accélérée, ce genre de choses. Enfin, le gamin, il a 6 ans, il revient, il est ado. La fille qui tombe enceinte comme ça, par magie. Enfin, ça a l'air très intéressant à voir comment c'est tourné. Parce que bon, M. Night Shyamalan, hein, des fois, c'est un peu du 50-50. Hein. On se souvient un peu de son film Phénomène, qui était un pétard mouillé. Hein. Même, j'ai pas vu Le Dernier Maître de l'Air, mais de ce que j'ai entendu, hein, ça serait pas bien fifou. Enfin bref, moi, en tout cas, pour ce mois-ci, les suggestions... Non, ce mois-ci, pour l'actu, pardon, je tenais à vous présenter une bande-annonce, celle de Shadow in the Cloud, avec Chloé Grace Moretz. J'ai plus le nom du réalisateur en tête, hein, je vous le dis tout de suite après. Mais ouais, cette bande-annonce, moi, elle m'a interpellé, parce que déjà j'ai lu quelques articles dessus, hein, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, on y suit justement le personnage de Chloé Grace Moretz, qui est une aviatrice, plutôt mécanicienne, ce genre de choses, on dirait, qui est en mission secrète, justement, une mission secrète qui a l'air de tourner du côté horrifique, puisqu'il y a des créatures étranges qu'on voit sur les carlingues des avions, et qui a... un petit courant féministe, hein, puisque, bon, il est précisé, hein, dans la bande-annonce, comme vous allez très bien l'entendre, que, ben, comment ça se fait qu'il y ait une femme à bord d'un avion, hein, ce n'est pas normal, les femmes, blablabla, hein. Du coup, ça a l'air d'être assez féministe dans son discours, à voir comment ça va être proposé, hein. Faut espérer que ce soit intelligemment fait et que ça serve bien le récit, pas juste du féminisme pour du féminisme, mais en tout cas, de comment c'est présenté et de ce que j'en ai lu, ça a l'air assez intriguant comme film, et j'espère qu'on pourra bientôt le voir au cinéma. Mais là, le problème, encore une fois, hein, les salles de cinéma, c'est un grand mystère. À suivre donc, pour le moment, je vous propose la bande-annonce.
Les n'existent pas, c'est dans votre tête. Ce ne sont pas des monstres qui causent les accidents. Ce sont les pilotes négligents. Qu'est-ce que vous foutez là?
Comment vous vous appelez, mon cœur?
Officier Borgaret, je suis mécanicienne et pilote.
Il n'y a pas de femme dans l'armée de l'air.
Ma mission est top secrète. C'est tout ce que vous devez savoir.
Ah! Qui êtes-vous à la fin, mademoiselle Garrett? Il y a un truc au-dessus, sur la carlingue!
On est en danger!
Les Gremlins n'existent pas, c'est dans votre tête! Nous devons bien à nos soldats de nous appliquer à notre tâche. Sécurisez notre ciel!
Content de vous revoir parmi nous, ma belle!
Alors, le film, pour précision, c'est un film de Roseanne Liang. Hein, j'ai vite fouillé pour vous trouver le nom de la réalisatrice. Bon, pour l'actu, je pense qu'on va s'arrêter là. Même si je meurs d'envie de vous évoquer une saga vidéoludique qui me tient pas cœur, Silent Hill. Et justement, ça va faire écho avec les suggestions qui arrivent maintenant.
Les suggestions.
Ce mois-ci, dans les suggestions, je tenais à vous parler à nouveau vinyle. Comme le mois passé, et comme j'ai pu vous le présenter alors, je vous disais que dans les suggestions, je parlerai autant maintenant livres, BD, comics, ce genre de choses, que de vinyle. Et justement, encore une fois, les jeux vidéo, bien que ce soit décrié et que Madame Macron nous ait dit que Fortnite, hein, c'est dangereux ou je sais plus quoi, c'est terrible, voilà, c'est terrible, hein, ben il y a certes d'autres perles. C'est terrible, hein, pour qui veut, hein, pour qui est intelligent, hein, on sait lire entre les lignes, hein, et il y a d'autres choses à se préoccuper plutôt que de Fortnite, hein, qui permet justement peut-être aux jeunes, hein, de se détendre, d'oublier un petit peu les conditions dans lesquelles on vit actuellement. Enfin bref, passons, revenons-en à mon propos. Donc oui, les jeux vidéo, ça peut proposer des bandes originales de qualité, dignes de films, hein, puisque actuellement, hein, beaucoup de ces bandes originales sont rééditées en vinyle. Je pense notamment à la saga des Resident Evil, comme à la saga Silent Hill. Silent Hill qui est la réponse en 1999 de Konami à la saga Resident Evil de Capcom. C'est alors que nous arrive donc ce jeu composé par la Silent Team, composé donc de nombreux, une bonne équipe japonaise, hein, qui œuvrera pendant 4 opus, hein, à la barre de cette franchise horrifique, et ils seront accompagnés tout du long du compositeur Akira Yamaoka. Akira Yamaoka qui justement continue, hein, malgré la fin de la saga Silent Hill, à proposer des partitions pour le monde du jeu vidéo. On pense notamment dernièrement au jeu The Medium qui est sorti courant janvier. Et justement, lors d'une interview, Akira Yamaoka a évoqué qu'il était à l'œuvre en ce moment même sur une saga, enfin sur un jeu que beaucoup dont beaucoup aimeraient entendre parler. On pense beaucoup à Silent Hill, que l'on sait en développement chez un studio, lequel, un petit peu mystère pour le moment, même si certains pigistes du monde vidéoludique le savent. Et pour ce qui est de cette bande originale, donc, je vous propose ce mois-ci Akira Yamaoka Silent Hill, le premier opus de la saga Silent Hill, réédité en vinyle et qui propose moult musiques. Des musiques qui, à l'époque, justement, le musicien japonais n'avait pas de batterie, donc elles ont un certain charme particulier. Et il faut dire que lui, c'est des musiques très organiques, métalliques. On n'est pas serein hein, lorsque l'on traverse cet univers infernal, ensanglanté, enflammé, mécanique, et j'en passe des mots. Moi, ce mois-ci, c'était vraiment de Silent Hill, Akira Yamaoka, et des musiques de Silent Hill dont je tenais à vous parler, et justement, pour l'occasion, en voici un extrait avec le thème principal de la série, un thème qui aura fait vibrer le cœur de beaucoup, qui aura fait se serrer le cœur de beaucoup, hein, notamment lorsqu'on a cru à un revival de la série en 2014, si je dis pas de bêtises, avec le Pity de Hideo Kojima. Et justement, et si c'était Hideo Kojima qui était à l'œuvre ? Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec cette musique qui terminait donc le Playable Teaser et qui fait également office de thème principal à la série Silent Hill. C'est le Silent Hill theme de Akira Yamaoka. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ce sont des musiques que j'apprécie toujours autant. Hein. Je suis à la recherche du vinyle hein, de Silent Hill 2. Ça a l'air un peu compliqué de trouver, hein, c'est vous dire là. Même si ça ressort, hein, ça a quand même une certaine rareté, hein, les vinyles de jeux vidéo. Hein, parce que à peine sortis des fois, ben, c'est compliqué de les trouver. Bon, j'en dis pas plus. Hein. Je vous propose de passer au plat principal du jour. La vie sur Godzilla. Resurgence ou Shin Godzilla.
La vie. Sur.
Shin Godzilla ou Godzilla Resurgence de Hideaki Anno et Shinji Higuchi, un rat de marée, inonde une partie de la côte de Tokyo. Après avoir pensé qu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle, les scientifiques se rendent compte que le responsable de ce désastre n'est autre que Godzilla. Une créature géante, prête à tout détruire sur son passage. Alors, comment vous parlez de ce film qui date de 2016 ? Et qui est le dernier Godzilla en film, en date, au Japon. Puisque, entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2014, hein, Legendary Pictures nous propose justement une refonte, hein, made in US, de cette créature japonaise. Qui fait partie du genre du tokusatsu. Le genre du tokusatsu, qui veut dire effets spéciaux en japonais, fait partie... Comment bien expliquer ? Il y a le tokusatsu en haut, hein, effets spéciaux au Japon. Et ça amène plein d'autres sous-genres, dont le kaiju Ega, dont fait partie les films de Godzilla, le Super Sentai avec les escadrons colorés à la Bioman, Power Rangers, les... enfin bref, Space Sheriff, si je dis pas de bêtises, type XOR, etc. Blablabla, blablabla. Bla, bla. Metal Sheriff, Metal Hero. Bref, là n'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qui nous attend donc avec ce Godzilla 2016 ? Déjà, il est atypique comme film. C'est-à-dire que lorsque l'on le regarde, ben, ça n'a rien à voir avec les Godzilla US ou tous les autres Godzilla qui ont pu être faits avant, du moins ceux qu'il m'a été donné, moi par les Français, de voir. Car oui, lorsqu'on regarde ce film, dès le début, on a l'impression de voir un film catastrophe. Ça n'a pas du tout l'air d'être l'arrivée d'un gros lézard qui va tout défoncer sur son passage ou quoi que ce soit. On dirait un film catastrophe avec justement la population qui est effrayée de par les événements qui sont en train de se passer. On passe beaucoup par des visions un petit peu type caméra embarquée avec un petit phone footage, hein, avec des caméras de téléphone portable, caméscope ou autre. Et en fond... On suit également l'avancée du personnage de Yaguchi qui fait partie du gouvernement japonais et qui va tenter de faire un peu sortir le Japon de cette crise. Car oui, c'est une crise interne dans le pays qui se produit, notamment au niveau du gouvernement, de la politique. Et c'est justement très intéressant comme c'est amené, puisque ça permet de comprendre un petit peu tous les ressorts. Bon, c'est un peu propre au Japon, mais tous les ressorts qui peuvent, que peuvent amener bah, des événements de la sorte bah, pour les gouvernements du monde. Puisque ça paraît pas, mais les gouvernements du monde, en plus du Japon, vont avoir une certaine importance dans certaines actions du film. Hein. On va beaucoup parler des États-Unis, hein, ainsi, mais également aussi de l'Allemagne, de la France, de l'ONU, c'est l'ONU qui est évoqué à un moment dans le film. Ouais, c'est bien ça, c'est l'ONU. Enfin, vraiment, c'est très politisé comme film. Très politique comme film, ça passe mieux peut-être comme phrase. Et c'est très intéressant. Encore une fois, ça amène vraiment tout un autre discours et ça peut se faire aussi poser des questions aussi ben, de par rapport à la gestion, de voir comme ils galèrent déjà, hein, par rapport à la gestion ben, d'une pandémie, hein, comme on est en train de le vivre actuellement. Ça a pas l'air d'être bien évident hein, parce que il y a un petit peu des ben, chaque ministère, un ministre, hein, se tire un petit peu dans les pattes, hein, l'écologiste, les écolos, tout ça. Enfin, les écologistes, ils aimeraient bien choper Godzilla pour pouvoir l'étudier, mais c'est pas le cas de la défense. Enfin bref, je grossis un petit peu les traits, mais c'est un petit peu ce genre de discours que l'on peut retrouver justement dans ce film-là. Un film qui est également très particulier concernant Godzilla. Bon, déjà, pour ce qui est des films au Japon, Godzilla, habituellement, ben, il est en costume. Hein, c'est quelqu'un qui est sous le costume de Godzilla. Ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment le premier film japonais où Godzilla est en 3D, hein, de la CGI. Mais tout de même, il y a eu un statut de motion capture où c'était vraiment un acteur hein, en combinaison moulante, etc., ce que vous voulez, hein, vous connaissez un petit peu le principe, qui faisait les mouvements de Godzilla. Il a dû rigoler, hein, surtout lorsque l'on voit Là, ça va spoiler un petit peu sur certains aspects du film, surtout que l'on ne les voit pas spécialement dans la bande-annonce, mais on en parle de la première forme de Godzilla. On n'était pas préparé. On n'était vraiment pas préparé à ça. Hein. C'est bien amené, hein, comme il apparaît. Hein. On le voit pas du tout au début, on voit juste certaines parties du corps, la queue, les épines dorsales. À un moment, il y a l'œil en gros plan, mais un œil un peu glaucouné, un peu cynisme sur qu'est-ce qui nous attend. Mais après, waouh, c'est un poulet. Le truc, c'est un poulet. Je m'attendais pas à voir Godzilla avec les yeux hagards comme ça. Il a le regard vide, globuleux. C'est sale. Enfin, waouh, c'était bon. Après, tout du long du film, il va évoluer. Mais waouh! Oh là là, on n'était pas préparé, hein. Ça nous a scotché, hein, sur le coup, hein. Heureusement qu'il évolue, hein. Mais même quand il évolue, après il a un faciès un petit peu plus dur, un peu plus sinistre. Mais par moments, il y a des profils du personnage. Il a toujours ce petit regard, ce petit œil là, globuleux là. Mais en soi. Oui, le film, il dure tout de même 2 heures, mais on se fait pas chier. Là où justement, je trouve que dans les films américains, ça fait défaut, mais on nous survend hein, le soldat américain qui doit retrouver sa famille, ou je sais plus vraiment c'est quoi l'histoire, hein, dans le Godzilla, le roi des monstres, la suite qui est sortie. Mais là, ça s'enchaîne très bien, c'est dynamique. Parfois même trop dynamique, parce que nous, bon, hein, on va pas s'en cacher, le film, il est pas sorti en France, hein, on a dû le voir en VOST de certaines manières, hein, va-t-on dire, mais il y a beaucoup de personnages, oui, parce que les sous-titres, des fois, enfin, bon, peut-être que sur une autre version, ça pourrait être plus lisible, mais il y a beaucoup de personnages, etc., qui apparaissent à l'écran, et ça se confond avec les sous-titres, du coup, ça perd en lisibilité, bon. Mais ça ne perd pas en intérêt, tout de même, il faut le souligner. Après, il faut le dire, là, les deux personnes qui ont tourné ce Godzilla, hein, ce sont les personnes qui nous ont offert hein, Neon Genesis Evangelion, Mais là, on ressent un petit peu leurs pattes, hein. On ressent un petit peu aussi ces thématiques qui font part, qui ont fait partie de Evangelion. Et ici, ben oui, on retrouve également cette énergie-là. Pareil, un autre aspect qui est bien dans les vieux Godzilla à la Made in Japan, c'est qu'il y avait, comment dire, au niveau des décors, ce genre de choses, il y avait un accent sur... Enfin, c'était des maquettes, hein, les tanks, ce genre de choses. Ici, c'est pas le cas, je pense. C'est pas des maquettes, mais ils sont très bien filmés, les engins militaires. Ils sont même... C'est beau, comme ils sont filmés. Ils sont mis en valeur, et on ressentirait presque la puissance de ces, engins. Parce qu'ils en ont sous le coude, hein, ces véhicules armés. Mais là, vraiment, on ressent cette puissance-là, et... Ouais, il y a... C'est différent, c'est pas comme ce qu'a pu nous offrir hein, les Américains avec leur vision de Godzilla. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est vraiment différent. Et on sent que, ben oui, que c'est un peu pro-nationaliste hein, sur les bords, mais oui, parce que ça tire un petit peu dans les pattes hein, sur des États-Unis hein, qui aiment s'accaparer les choses hein, dans le film, hein, ça le met en avant. Mais là, au moins, oui, ça se ressent. Godzilla, c'est un bébé du Japon. Voilà. Après, bon, il y a d'autres thématiques qui pourraient être mises en avant. Hein. Par exemple, le rapport avec Fukushima, la catastrophe qu'il a en suivi, comment ça a pu être géré, etc., etc. Parce que oui, Godzilla, à la base, hein, c'est la peur du nucléaire du Japon, hein, suite à ce qui leur est arrivé lors de la Seconde Guerre mondiale. Je pense avoir dit ce que j'avais à en dire. Si... le pourquoi des actions de Godzilla, c'est pas trop bien expliqué. On sait pas vraiment ce qu'il voulait faire au final, hein. S'il cherchait de l'énergie pour se développer, s'il cherchait quelque chose ou quoi que ce soit. La fin pourrait peut-être laisser penser quelque chose. Je vous laisse le découvrir. Le problème, c'est que malheureusement, il n'y aura pas de suite à ce film. Parce que bon, avec les accords, avec Legendary Pictures, etc., etc., ben, normalement, le Japon ne peut pas sortir de film les années où il y a un film Godzilla qui doit sortir aux US ou dans le monde, tout ça. Enfin bref, ça a l'air un petit peu complexe comme gestion. Bon, ça ne les empêche pas, la Toho, notamment, de faire des films d'animation. Faudra se la faire, la trilogie Godzilla qu'il y a sur Netflix, ces films animés. Mais sinon, ouais, pas plus à en dire. Moi, je suis curieux maintenant de voir le Godzilla versus Kong. Et je suis dans la hâte hein, de redécouvrir un Godzilla japonais parce que franchement, c'est une bonne surprise, mais une bonne surprise de qualité. Voilà, j'ai pas plus à en dire. Hein. Ah oui, les musiques, les effets spéciaux, tout ça, hein, on va pas s'en cacher. C'est du japonais. Mais les effets spéciaux, pour une fois, hein, la 3D ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment très très pop comme film. Hein, et les musiques, superbes à voir. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre avec le Godzilla poulet, je vais l'appeler comme ça. Mais la musique qu'il y a en fond lorsqu'il fait sa première traversée, elle est superbe. Thank you. c'était Persecution of the Masses de Shiloh Sagisu. Je sais pas vous, mais cette musique, moi je la trouve fifole. Hein. Elle est vraiment dingue, puissante. On sent vraiment toute la majestuosité de ce kaiju, cette créature gigantesque qui fait, qui est un des fleurons du Japon. Hein. Franchement, encore une fois, hein, le Godzilla versus Kong US, il me tente, mais je me demande si on va y trouver justement la profondeur hein, qu'on peut avoir avec justement ce film japonais hein, qui encore une fois était bluffant d'un bout à l'autre. Bon, c'est vrai que pour le Godzilla versus Kong, j'entends beaucoup de rumeurs sur des méca-monstres. Est-ce que ça sera le cas? Bon, c'est vrai que là, ça va faire plus fanservice qu'autre chose si on y a affaire, mais ça peut être très intéressant. Enfin, j'en dis pas plus. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est que l'on passe au dessert avec l'avis sur Dolo et Dolo.
L'avis
Alors, Dolo et Dolo, c'est un manga à la base hein, de Kyo Hayashida, un manga qui a été publié dans le magazine, dans plusieurs magazines, hein, je ne vais pas vous en citer tous les noms, mais en tout cas, la sortie initiale de ce manga, enfin du moins l'apparition de ce manga, a duré des années 2000, enfin années 2000, à septembre 2018. Bon, au final, ça totalise près de 23 volumes. 23 volumes que l'on peut retrouver en France aux éditions Soleil Manga. Mais qu'est-ce que c'est que Dolo et Dolo ? Laissez-moi vous en lire le synopsis. Dans un futur post-apocalyptique, deux populations complètement différentes se côtoient dans un univers lugubre et glauque. Dans le monde des mages, ceux-ci ont la faculté de faire apparaître des passages et s'abandonnent au plaisir de la mutation sur des cobayes qui vivent à Hall, repère des malheureuses victimes mutées. Kaiman, qui n'a toujours pas vécu avec une tête de lézard, raffole des gyozas de son ami Nikaido et recherche par tous les moyens à retrouver celui qui est à l'origine de son aspect actuel. À tout majeur à son avantage, il reste insensible à la magie des mages, ce qui ne plaît absolument pas à ceux-ci. Nous serons Kaiman, qui ne se souvient de rien avant sa transmutation en homme lézard par un utilisateur de magie. Il vous savit à la recherche du mage responsable de son état et se lance avec l'aide de son ami Nikaido sur les traces des utilisateurs de magie vivant à Hall, repère des malheureuses victimes mutilées. Cependant, sa nouvelle condition lui apporte un avantage majeur contre ses ennemis. Il est insensible à la magie. C'est moi ou ça se répète un petit peu ce synopsis ? J'ai l'impression, j'ai trouvé son sens critique, enfin bref. Hein. Donc ça c'est le synopsis grosso modo du manga et de la série d'animation qui est sortie sur Netflix en mai 2020. C'est une série d'animation que l'on doit au studio d'animation MAPPA et qui est réalisée par Yuichiro Hayashi. Bon, en soi, la série d'animation, ça va reprendre les bases du manga, les premiers tomes du manga, assez fidèlement de ce que j'ai pu y comprendre. Et franchement, pour une série d'animation japonaise, c'est bluffant. Pourquoi ? Je vous en parle mieux après la bande-annonce.
One day, a spell was cast on me, and it turned me into a lizard head. I lost all of my memories, and have no clue who did it. In order to get my face back, along with my memories, I continue to hunt down any sorcerers I can find, alongside my partner, Nikaido.
Hey! So, what did he tell you? The guy inside. You know, I just saved you, so you should treat me to that.
You've never paid for anything before, so why should today be different? Bon appetit! Okay, but eat first!
Your enemy is a dangerous individual. Find him no matter what.
Noli, give me the bag.
Here.
Make sure you watch closely. I am what you would call a real sorcerer.
One, two, three, four. How many of them did you clean up so far?
I'm positive I'll get to take revenge for Matsumura. Just you wait, you damn lizard!
Stop! What are you doing, Ebisu? Hold on!
I'm hungry!
Ready, you sorcerers!
I didn't understand a single word.
Déjà, ce qui sort du lot par rapport à d'autres séries d'animation japonaises, c'est son aspect graphique. Bon, déjà, je pense qu'on a un trait assez proche hein, de ce que pouvait offrir Kyu Hayashida dans les dernières pages de son manga. Puisque le trait a l'air assez fidèle, mais pas que. Puisque le studio MAPPA a fait le choix d'utiliser le procédé du cel shading pour justement animer ses personnages. Je vous explique. En fait, ils ont utilisé un procédé graphique de type 3D, 3 dimensions, pour qu'ils ont ancré un petit peu à la manière d'un manga pour faire ressortir un effet BD sur cet aspect. C'est un peu le principe du cel shading, grossièrement parlant. Et justement, ça permet d'offrir une certaine profondeur à l'animation, alors que de manière classique, on aurait juste eu les personnages qui avançaient sur des décors mis en fond ou quoi que ce soit. Là, les personnages, ben, ils ont de l'ampleur dans le décor et ça les rend un petit peu plus vivants. Pareil, c'est un procédé également qui permet justement une meilleure dynamique au niveau des scènes d'action qui sont plus amples et qui leur permettent une fluidité et des mouvements plus intéressants, plus à même de coller justement à ce qu'ils devaient ressortir des pages du manga que s'ils avaient utilisé justement classiquement une animation classique. Bon, cependant, c'est un procédé qui n'est pas sans faille, puisque par moments, il y a une petite rigidité dans les personnages, mais ça intervient justement lors de certaines scènes de marche ou quoi que ce soit, ça ne gêne en rien, comme j'en parlais sur les scènes d'action. Après, ça permet aussi de... ça renforce l'impact des décors, donc les décors ont plus de profondeur, mais aussi ils ont de la... ils se démarquent des autres productions puisqu'ils sont atypiques. Déjà, l'œuvre en elle-même est atypique, mais lorsque l'on voit Hall qui a des couleurs un petit peu grisâtres, ce genre de choses, qui est une ville un petit peu plus industrielle, mécanique, par rapport au monde des mages qui est beaucoup plus coloré et qu'on croirait sorti tout droit lorsqu'on a pris un bon champignon, lorsque l'on est fait un trip, franchement, c'est deux mondes aux opposés. Et l'animation, comme je vous en parle, justement, ça permet de donner une âme presque à ces deux villes distinctes, à ces deux environnements distincts. Donc ça, grosso modo, c'est pour vous parler de l'animation, ce genre de choses, mais parlons en soi de l'histoire en elle-même, qui, on va pas se le cacher, on va donc suivre le personnage de Kaiman et Nikaido à la recherche de la personne qui a fait causer du tort à Kaiman, qui lui a greffé, qui l'a changé en homme lézard. Et c'est une histoire qui va beaucoup jouer sur l'humour noir. Il y aura beaucoup d'humour noir, beaucoup de gore, c'est violent, c'est sanglant, mais c'est prenant. Si on est réceptif à ce genre d'univers, on ne peut qu'accrocher. Et justement, pour une histoire, pour un manga, il y a quelque chose que je retiens en particulier, c'est la qualité d'écriture de ces personnages. Parce que ce soit des gentils ou des méchants, quoique on peut vite en parler comme des méchants, mais ils sont présentés un petit peu comme les opposés de Kaiman et Nikaido, mais tous les personnages sont attachant. Il n'y a pas un personnage chez qui on peut se dire « Ah, j'aime pas » ou quoi que ce soit. Moi, que ce soit Nikaido, N, Kaiman, Ubisu, Shin, Noi, et j'en passe, ils sont tous attachants. Et ça serait presque regrettable d'en voir un passer l'arme à gauche. Je pense pas que ce soit le cas. Peut-être dans les épisodes ultérieurs qui risquent de nous arriver. Mais franchement, le manga use de pirouettes scénaristiques qui leur permet justement de s'en sortir à chaque fois haut la main. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Parce que encore une fois, ce sont vraiment tous des personnages attachants. Et On peut justement saluer hein, les différents seiyuu, hein, les voix japonaises hein, qui œuvrent sur le manga. Elles sont excellentes, tout comme les musiques hein, qui sont l'œuvre du groupe No Name et qui rythment parfaitement bien ce manga, cette série d'animation qui dure 12 épisodes plus un spécial qui regroupe 6 petits épisodes qui permettent d'approfondir l'histoire, de donner un peu plus de profondeur à certains éléments de l'histoire du monde de Doléo Dolo. Franchement, moi, c'est un plaisir que je vous recommande. Si vous êtes adepte hein, de manga déjà, de manga atypique et manga à l'univers un petit peu psychédélique, humour noir, etc. Etc. Bon, le regret que j'ai, c'est que la fin est un peu abrupte, mais ça ne donne envie que d'une chose, hein, c'est vraiment de voir la suite. Hein. Et je pense qu'on va peut-être se refaire à l'occasion les épisodes, hein, lorsque la suite se précisera, parce qu'il y a l'air d'avoir 2-3 petits indices hein, sur ce qui pourrait nous attendre pour la suite. Donc ouais, moi franchement, hein, si j'ai une série d'animation à vous recommander ce mois-ci, c'est bien Doléo Dolo. Et pour vous l'illustrer, hein, je vous en propose le générique d'intro. C'était Welcome to Chaos de No Name. Voilà, moi je pense avoir fait vraiment le tour de ce que j'avais à en dire hein, sur cette cette série d'animation japonaise. Je vais peut-être me mettre au manga dans pas longtemps, hein. Mais ouais, bon, l'animation, hein, oui, par moment, on retrouve des séquences un petit peu plus classiques, ce genre de choses. Mais ouais, franchement, une claque, hein, un coup de cœur, hein, vraiment. Ce manga, c'est vraiment, oui. Au-delà de son histoire, sa plus grande force, hein, c'est vraiment ses personnages, hein. L'histoire, déjà, elle est super cool à suivre, mais vraiment, ses personnages, c'est rare, hein. C'est rare d'une œuvre, hein, de dire que ces personnages sont tous attachants, hein. J'ai même pas le sentiment d'avoir ressenti ça dans un film ou quoi que ce soit dernièrement. Peut-être dans Shin Godzilla. Bon, allez, moi je vous en dis pas plus, hein, car oui, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, hein. Moi je prends toujours du plaisir à l'enregistrer, hein. Si vous prenez toujours du plaisir à m'écouter, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube Chef Winner si vous voulez du contenu en plus, hein. Peut-être que cette fois-ci, exceptionnellement, il y aura du contenu de l'émission sur la chaîne et pas inversement, même si la vidéo sur Shin Godzilla, hein, va apparaître dans quelques temps. Donc oui, si vous avez quoi que ce soit à dire pour la suite, suggestions, avis, commentaires ou quoi que ce soit, du moment que c'est dans la bonne entente et dans la bonne humeur, vous pouvez m'écrire à showtime.radiolarzac@gmail.com ou showtime@radiolarzac.org. Je vous remercie, auditeurs, de m'avoir écouté. Je remercie Radio Larzac de continuer à me diffuser, de continuer de donner sa chance au mainstream. Merci à vous et merci à la technique de m'avoir montré tout ce que j'en sais pour vous proposer toujours cette émission en condition de direct faux direct. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis donc à la prochaine.